Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs du 101.5 FM et du radio-g.fr sur une nouvelle rubrique à l'assaut. À l'assaut, dont je vous rappelle, au service de toutes les associations qui souhaitent être présentées en direct sur les ondes de Radio G, il suffit de contacter donc relations extérieures, tout attaché féminin pluriel, @radio-g.fr pour faire toute demande d'intervention sur nos ondes. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir de vous y accueillir. Radio G a pour but essentiel, entre autres, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui en disposent très très peu. Et ça se prouve une fois de plus aujourd'hui, donc avec notre projet associatif qui est en correspondance parfaite vis-à-vis de cette situation. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une association qui s'appelle Termoutis. Termoutis, une longue histoire. Nous vous avions déjà reçu il y a 3 ans sur les ondes de Radio G avant cette grande espace vide de Covid. Et c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau ce midi. Alors je vous laisse vous présenter. Madame Moreau.
Oui, bonjour. Donc moi, c'est Sylvie Moreau. Je suis la vice-présidente de l'association Termoutis et je suis agent de médiation, information, service, également parent co-formateur en protection de l'enfance au niveau national depuis 2016.
Merci. Et monsieur Chenière.
Oui, monsieur Chenière Ernest, je suis le président de l'association Termoutis. Je suis ancien député de l'Oise.
C'est ce qu'il me semblait.
Voilà, je suis professionnellement personnel de direction honoraire de l'éducation nationale et en plus clair, ancien
proviseur de mémoire.
Voilà, et proviseur, effectivement.
Eh bien, écoutez, en tous les cas, bienvenue sur les ondes de Radio G. Et puis, vous êtes là, effectivement, pour de nouveau prendre la parole sur un sujet qui vous tient plus que tout à cœur aujourd'hui. C'est effectivement le placement de l'enfance en général. Alors, je pense que ça mérite beaucoup plus de précision que mon terme généraliste. Qui veut présenter Termoutis ?
Bah écoutez, Termoutis, déjà on peut faire un peu d'orthographe. Termoutis. Pour comprendre le nom Termoutis, c'était le nom d'une princesse égyptienne et pas n'importe laquelle. C'est celle qui a recueilli le petit Moïse âgé de 3 mois, cependant qu'il dérivait sur le Nil. Pourquoi est-ce que cette personne mythique, en quelque sorte, est devenue notre référence ? C'est tout simplement parce qu'elle a bien sûr recueilli Moïse, elle a en quelque sorte adopté, elle qui était l'institution, mais elle l'a restitué à sa mère biologique, donc à sa famille. Et nous, c'est notre mission, c'est-à-dire d'accompagner institutionnellement, autant que faire se peut, les enfants qui se trouvent pris en charge momentanément par l'institution, mais nous avons la volonté toujours réaffirmée de faire en sorte que l'enfant puisse revenir au sein de sa famille.
Alors écoutez, soyez-en très fiers, parce qu'au travers de toute la discussion qu'on a eue en amont de cette émission, je me rends compte que c'est une motivation essentiel et vital pour vous. Alors bravo en tous les cas pour tout ce que vous faites pour ces enfants et ces familles. Termoutis, c'est organisé comment ? National, régional ? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de votre association, s'il vous plaît ?
Sylvie.
Alors nous sommes une association nationale, officiellement créée depuis septembre 2018. Nous nous déplaçons donc sur l'ensemble du territoire à la demande des parents, des familles. Bon, nous sommes très ancrés sur le département du Maine-et-Loire depuis déjà plusieurs années, avant la création de l'association Termoutis. C'est important d'accompagner, d'aider, d'orienter ces familles. Donc nous, toutes les semaines, en fin de compte, oui, nous nous mobilisons. Ça permet aux familles de venir nous rejoindre, d'échanger, de se soutenir aussi, c'est important. Des conseils qui peuvent être échangés. Donc voilà, ça c'est déjà ce que nous mettons en place chaque semaine. Plus au quotidien, c'est l'appel des familles, les appels téléphoniques, l'accompagnement au rendez-vous institutionnel. Ça peut être aussi un accompagnement chez les avocats, accompagnement... même à certains droits de visite, puisqu'il y a des départements qui acceptent. Voilà, donc...
Alors, on va revenir sur le Maine-et-Loire, parce que c'est votre cœur d'exercice. Pour moi, c'est vraiment, dans le Maine-et-Loire, comment est structuré Termoutis ? Combien d'adhérents ? Combien de personnes ? Qui s'occupe de quoi ?
Ben, comme toute association, nous avons un bureau, le président, le trésorier, la trésorière, etc. Bon, et nous avons une centaine d'adhérents actifs, plus d'autres qui sont la périphérie. Voilà. Et donc, il y a un échange permanent entre tous, sur les situations que nous rencontrons, sur les dossiers que nous avons à traiter. Mais naturellement, notre action ne peut que se prolonger par une collaboration directe et étroite avec quelques avocats qui ont en charge les dossiers, à qui nous apportons des renseignements, des analyses, auprès de qui nous pouvons introduire les familles, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que les familles qui ont affaire à ces services sociaux, à l'ASE pour ne pas la nommer, sont des familles blessées. Des familles blessées qui sont dans des situations quelquefois d'incapacité.
Alors justement par rapport à cette situation, quel constat faites-vous à titre personnel et associatif? Est-ce qu'on peut constater, je dirais, une stabilité des problématiques aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une aggravation constatée au bout de 3 ans depuis votre dernière visite?
Il y a malheureusement une aggravation, en fin de compte, des situations d'enfants placés. Il y a une multiplication des signalements, des informations préoccupantes. Alors que quand nous accompagnons vraiment ces familles, que nous déplaçons pour mener une enquête de terrain, on se rend compte que là, le signalement, il est plutôt abusif.
Alors comment êtes-vous contacté, vous, au titre de votre association, pour ces cas particuliers?
Alors c'est les parents en fin de compte qui nous contactent, donc soit téléphoniquement ou via internet, parce que nous avons des pages Facebook, et après c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Vous voyez, nous sommes appelés, j'irais, de tous les départements, donc c'est comme ça en fin de compte on se fait connaître. Mais c'est vrai qu'au niveau de la communication, elle est importante, parce que sinon les parents sont seuls dans leur coin, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas les textes institutionnels, et malheureusement ce ne sont pas les services sociaux qui vont vous dire ce que vous avez le droit ou pas, parce que tout est interdiction. Donc normalement, ils sont là pour aider les familles, les écouter attentivement, avec bienveillance, avec bientraitance, et nous en sommes très très loin.
Alors effectivement, il y a un terme que vous avez employé tout à l'heure, Monsieur Chenier, qui m'a un petit peu interpellé. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, dans l'espace droit, justice en France, tout le monde est présumé innocent.
Normalement.
Or, vous me dites qu'aujourd'hui, dans ce système, tout le monde est présumé coupable.
Oui.
Quelle est la raison d'être de cette opposition en termes de situation, de votre visu?
Eh bien, écoutez, c'est de l'idéologie, n'est-ce pas? C'est de l'idéologie. Et en vérité, finalement, cette institution LASE, elle se perçoit et se conçoit comme une administration de répression des mauvais comportements parentaux occasionnant des situations de pénibilité pour les enfants. Donc, c'est pour cela que, a priori, toute personne sur laquelle on s'interroge doit être présumée innocente, à partir du moment où l'on flaire une problématique quelque part, eh bien, la personne est non seulement présumé coupable, puisqu'il y a des enfants qui sont retirés aux familles de manière quasiment préventive, n'est-ce pas? Y compris avec l'aide de la police et avec la présence de la police, chose que l'enfant n'oubliera jamais de toute sa vie. Mais non seulement le parent est présumé coupable, mais il est traité en coupable jusqu'à ce que son innocence puisse être établie. Or, le chemin pour établir cette innocence passe par les méandres d'investigations, de visites, de contrôles, d'enquêtes, de relations avec le juge, des enfants, avec l'institution, etc. Et vous savez, un enfant, quand il est placé, eh bien, c'est en perspective jusqu'à ses 18 ans. Vous savez combien de familles dont nous nous occupons, dont les enfants, et ce sont des familles qui se plaignent à nous et qui nous expliquent la situation, dont les enfants sont placés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. C'est épouvantable.
Alors, vous disiez également, selon différentes enquêtes, 50% des enfants placés ne devraient pas l'être. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Quelles sont ces enquêtes? Quelle est cette analyse que vous faites?
Alors, en fin de compte, il s'agit du rapport de l'IGAS. Hein, donc, c'était un rapport qui avait été fait en 2009, de mémoire. Mais ce rapport a été renouvelé. Et en effet, il y a 50% des placements qui sont dits injustifiés, abusifs. Je pense qu'un soutien à la parentalité aurait été déjà plus adapté. Une aide, hein, puisque voilà, il y a des parents, des fois, qui peuvent être démunis. Surtout quand vous avez un enfant en situation de handicap, un enfant qui est différent. Vous avez des rendez-vous, parfois, il faut attendre 3 ans pour aller voir un professionnel, pour faire également un diagnostic. Alors, je ne pense pas que ce soit les travailleurs sociaux, enfin, l'aide sociale à l'enfance, qui aient toutes les clés pour aider ces familles. Ce n'est pas en leur prenant leurs enfants, en plus d'une manière très violente, comme a pu le dire M. Chénière. Parce que c'est vraiment, c'est traumatisant pour les enfants, pour les familles. En plus, les fratries sont éclatées.
Hein, donc ce qui, est vraiment, qui n'est pas légal.
C'est contradictoire au texte de loi. Donc, alors c'est vrai que j'ai élargi un petit peu ma réponse, mais le dernier texte, hein, donc en date du 7 février 2022, il serait bon que toutes ces équipes le lisent attentivement et puissent l'appliquer et le respecter. Alors, dans l'intérêt supérieur des enfants et des familles.
Je vais poser une question particulière. Selon vous, quelle est la problématique ? Existe-t-il une superpuissance ACE ou y a-t-il une insuffisance de soutien qui puisse aider ces familles à établir un équilibre minimal pour le seul bien-être, celui de l'enfant ?
Moi, je pense que nous sommes confrontés à ce que, en termes de sociologie, on appelle une systémique. Bon, l'aide sociale à l'enfance, c'est très bien que cela existe. C'est très bien qu'il y ait une institution qui se préoccupe des enfants rencontrant de graves difficultés dans le milieu familial, etc. Bon, mais nous avons une bureaucratisation de cette institution qui, dans sa dimension plus ou moins totalitaire, avec les avantages d'autorité dont elle dispose, eh bien, se comporte vraiment comme une administration, je vais être modéré dans mon propos, on va dire policière. Pourquoi ? Parce qu'on traque, la faute. On prend les coupables, on les entraîne devant le juge, on réclame des châtiments, on exerce des punitions et on contrôle la mise en œuvre de ces punitions. Combien de fois avons-nous rencontré, par exemple, des parents qui recevaient l'annonce que, eh bien, leur droit serait réduit? Le droit, par exemple, d'appeler la famille d'accueil ou d'appeler l'enfant, qui serait réduit. Pourquoi ? Parce que cette famille n'avait pas, je pèse le mot, puisque c'est ce qu'ils nous disent et c'est ce qu'ils disent, parce que la famille ne collabore pas. Bon, donc à partir du moment où on montre une certaine résistance, je pèse mon mot, par rapport à l'action écrasante de cette institution, eh bien, on est accusé de ne pas être soumis. Voilà. Alors, et donc, on subit une forme de répression.
Alors, de votre analyse personnelle, parce qu'en vertu de vos expériences passées, de votre maîtrise, que vous avez véritablement en accord tous les deux, est-ce que le... Alors moi, je me pose une question toute simple. Est-ce que l'association Thermoutis se suffit à elle-même ou est-ce qu'il ne serait pas envisageable de faire un regroupement d'associations qui soit sur la défense essentielle de l'enfant et de la famille, qui maintienne un équilibre judicieux pour le véritable bien-être à la fois de ses enfants et à la fois de ses familles ?
En effet, enfin, le projet, c'est de développer l'association Thermoutis, donc via des antennes. Donc là, lors de déplacements, voilà, nous avons rencontré des parents, des personnes engagées qui sont prêts à relayer, en fin de compte, nos actions, nos missions, tout en restant responsables, entre guillemets, pilotes peut-être, auprès de ces personnes qui vont pouvoir relayer sur chaque département. C'est important. Et de fédérer avec des associations déjà existantes. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
Bien sûr.
On est quand même sur un sujet très sensible. Hein. Il s'agit des enfants, des familles. Après, chaque cas est différent. Après, il y a une communication à avoir aussi. Il faut rester diplomate en même temps, stratégique. C'est important.
Là, tu me fais rire, là.
La gens de médiation parle de communication.
Non, mais sur le plan national, puisque nous avons des contacts avec d'autres associations, que nous suivons des dossiers dont nous ne sommes pas en charge, n'est-ce pas? Bon, vous avez par exemple une très grande manifestation nationale qui est organisée bientôt par Madame Sylvie Castro autour de l'inauguration d'une pyramide, et il y aura un ancien député qui sera présent. Moi-même, je serai présent là-bas. Bon, voici une personne qui mène le combat. Elle a écrit plusieurs livres sur la question. Vous avez l'avocat Michel Hamas, dont nous avons suivi les travaux et qui mène un combat véritablement épique dans ce domaine. Mais effectivement, il serait bon que nous puissions mettre en convergence nos actions. Mais cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, et en fait, eu égard au temps que nous passons à traiter nos dossiers, eh bien, ma foi, ce temps nous manque pour créer cette grande conversion. Mais c'est un problème national, c'est une cause nationale. Et moi qui n'aime pas les statistiques, vous avez demandé tout à l'heure un chiffre, moi je vous le donne, hein, sur la France, là, il faut compter en gros 360 000 cas d'enfants concernés, n'est-ce pas? Vous voyez la population que ça peut représenter. Et ce ne sont pas 360 000 enfants qui appellent à être placés.
Oui, qui ne sont pas en réel danger.
Alors justement, je vais me permettre de rebondir sur ce sujet qui est vraiment particulièrement sensible. Aujourd'hui, j'ai une question, moi. Qui détermine la normalité, si elle existe, bien entendu, qui puisse aboutir à toute décision finale pour le seul bien-être de l'enfant et des familles? Quelle est cette normalité, si elle existe?
Hormis
les textes de loi.
Ah bah c'est les textes, ce sont les textes de loi, comme vous dites.
Oui, mais les textes de loi n'empêchent en rien l'affectif,
non, mais bien sûr,
le social et l'humain.
Bien sûr, mais attendez, au sommet de cette organisation de pouvoir, vous avez le juge des enfants. Lorsqu'il s'agit d'un divorce, vous avez le juge des affaires familiales qui prend aussi des décisions de placement, de séparation, etc. Bon, d'attribution de la garde, etc. Exclusive ou alternée. Bon. Mais vous avez le juge des enfants. Bon. Le juge des enfants, il est confronté à une masse de dossiers. Bon. Et ces dossiers-là sont préparés par l'ASE. Moi, je peux vous dire une chose. C'est que le juge des enfants entérine. Le dossier arrive, hop, amen. Et les préconisations de l'ASE, et les gens de l'ASE, ils vous le disent, ils ne s'en cachent pas. Et nous avons exploré différents dossiers montés par l'ASE, nous retrouvons les mêmes formules.
Bon. Copier-coller.
Et ils connaissent leur pouvoir vis-à-vis du juge qui va entériner la décision. En quelque sorte, aux yeux du juge, ils sont divinisés, ils sont intouchables. N'est-ce pas? Bon, alors, évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que chaque cas est un cas d'espèce, d'une part. Deuxièmement, tout, ces gens-là, cette piétaille de l'ASE, vous avez des gens, nous en avons rencontré, mais qui ne sont pas formés du tout, qui n'ont pas le feu sacré qu'il faudrait, puis ils sont là, bon, bah, ils sont rémunérés, ils font leur truc. Nous voyons très bien les difficultés qu'il peut y avoir à ce que les parents voient les enfants dans des périodes où il n'y a personne dans les foyers pour piloter ça, etc. Bon, donc c'est une question complexe, mais c'est une cause nationale.
Oui. J'ai bien entendu, M. Chenière. Alors, en quelques secondes, parce que le temps passe très vite, Madame Moreau.
Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire M. Chenière, c'est-à-dire que quand un parent, donc au départ, est passé devant le juge aux affaires familiales et qu'il y avait un des parents qui était quand même auteur de violence, eh bien, il se voit attribuer la garde par l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Il va falloir qu'on nous explique comment on peut confier un enfant à son bourreau. Voilà, moi je vais le dire en termes très singuliers.
Alors, juste pour finir, malheureusement, parce qu'on arrive au bout des 20 minutes, et Dieu sait si on a des montagnes de choses à se dire, et vous serez bienvenue pour revenir.
Merci.
Un contact de Termoutis, s'il vous plaît.
Donc, nous avons un site, c'est tout en minuscule, bien sûr, contact.termoutis@gmail.com. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Thermoutis, c'est T-H-E-R-M-O-U-T-H-I-S. Et contact, c'est contact, point. C'est pas contact
Merci
avec un...
Merci mille fois, mesdames et messieurs, je suis navré.